Nous sommes dans le cadre du festival Résistance à Foix en juillet 2017 et je suis avec Habiba Janine, réalisatrice algérienne, mais qui fait aussi beaucoup de choses. Alors ce que j'avais envie de parler avec toi, c'est en effet rapidement ta trajectoire, c'est-à-dire de femme algérienne et aussi de militante et de productrice, de réalisatrice de films, pour après on parlera un peu de cette Algérie.
D'accord. Ben écoute, moi j'ai commencé j'ai d'abord été très longtemps militante féministe, comme je dis à beaucoup de gens, dans les années 80 et 90, quand on est jeune à cette période-là, on est forcément militant de beaucoup de choses. Donc j'étais militante féministe engagée vraiment dans la structuration et dans la construction du mouvement féministe algérien. J'étais très présente aussi dans certaines réunions et travaux du mouvement culturel berbère à l'époque, qui s'appelait le MCB. Et puis j'étais militante d'extrême gauche, que j'ai quittée assez rapidement pour des raisons aussi par rapport à la question des femmes sur lesquelles on n'entendait pas beaucoup, sur lesquelles je trouvais qu'il y avait un problème qui... Voilà, c'est toujours pareil, c'est-à-dire la question des femmes est toujours remise au second plan. Et ça m'énervait pas mal, surtout quand il s'agit d'un groupuscule qui n'a pas beaucoup d'influence. Et du coup, j'ai quitté ce groupe pour pouvoir vraiment assumer pleinement mon engagement féministe.
À l'époque, j'avais eu contact avec des mouvements berbères et ils disaient qu'eux, ils étaient féministes, ils n'étaient pas comme les Arabes, ils oppressaient pas les femmes.
Oh, tu parles. Tu parles. C'est un système, le système kabyle est un système complètement patriarcale, basée sur la domination de l'homme, complètement. Et c'est vraiment, du coup, c'est vraiment un système ancestral, patriarcal et ancestral, les deux à la fois. C'est-à-dire que le travail de la femme n'est même pas reconnu comme tel. C'est-à-dire les femmes, elles sont dans les champs, elles travaillent toute la journée.
Et oui, ça quand on dit on les laissait libres.
Elles sont libres de travailler.
Il faut l'arrêter dégagée parce que pour travailler...
Bah oui, elles trimaient comme des malades, c'est vrai, elles sont libres d'être des esclaves, sans salaire, sans... Mais si et jamais elles décident d'aller dans le village d'à côté parce qu'elles veulent visiter leur copine ou leur copain, bah c'est pas possible. Il faut qu'elles restent dans le cadre de leur champ et dans le cadre de la vie de famille. Et non seulement c'est le père qui décide pour elles, c'est le mari, c'est le beau-père, c'est ses gendres, tout le monde, tous les hommes de la tribu décident pour la femme.
Liberté surveillée.
C'est une liberté, enfin c'est même pas une liberté. Pour moi c'est pas une liberté.
Et donc toi tu as réagi par rapport à ça?
J'ai réagi par rapport à un tas de choses. D'abord nous on a grandi avec l'idée qu'on était en train de construire une Algérie libre et démocratique parce que la génération de mes parents ont obtenu l'indépendance, que mes parents se sont engagés pour l'indépendance de l'Algérie. Donc on se sentait fort de ce combat. C'est-à-dire on ne sentait pas qu'on faisait quelque chose hors du commun. Pour nous, ce combat était évident.
Il fallait qu'on continue.
Absolument. Pour nous, c'était une continuité, c'était une poursuite. Et il fallait continuer à se battre pour une Algérie libre et démocratique où tout le monde aurait sa place. Voilà. Que ce soit les femmes, les hommes, les jeunes, un accès à l'éducation, un accès aux libertés individuelles et collectives, etc. etc.
Et ça se faisait sous quelle forme? Alors des associations?
Nous, au départ, avant 88, c'était sous forme de collectif. Parce qu'il n'y avait pas de liberté d'association. Et à partir de 88, qu'il y a eu justement les grandes manifestations et que nous sommes tous sortis dehors et toutes pour revendiquer le droit et la liberté d'association.
Oui. Et 88, c'était des manifestations d'égalité sociale quand même.
En fait, au départ, c'était les jeunes qui ont commencé qui ont mené une manifestation immense dans les rues d'Alger et de plusieurs villes d'Algérie pour revendiquer l'égalité sociale, la liberté d'expression, etc., le droit d'exister librement dans ce pays, avec des droits. Et c'est une manifestation qui a été réprimée dans le sang, c'est-à-dire qu'il y a eu plus de 250 morts en une journée, en une matinée. C'est-à-dire l'armée a été autorisée à tirer sur les jeunes avec des vraies balles, et donc il y a eu beaucoup de jeunes qui ont été assassinés. Et en plus de l'assassinat des jeunes, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont été emprisonnés, violés et torturés. C'est-à-dire vraiment de manière terrible. Et jusqu'à présent, il y a beaucoup de jeunes d'Octobre 88 qui sont amputés parce qu'ils ont été torturés tellement gravement qu'ils ont perdu des membres. Des jambes, des bras, etc., etc. Et nous, c'est à partir de là, moi j'avais 20 ans en 88, qu'on a commencé à se mobiliser de manière clandestine au départ parce qu'il fallait protéger un certain nombre de gens. Et après, on s'est mobilisé contre la torture, on a installé des tribunes de discussions qui étaient interdites, mais qu'on imposait, parce qu'on avait pris d'assaut les salles de cinéma, les salles de théâtre, etc., pour prendre la parole. Et toute la société, dans son ensemble, a profité de tous les espaces syndicaux, associatifs, collectifs, professionnels, socioprofessionnels, etc., toutes les corporations, tout le monde, là où il était, créer des espaces de parole. Et c'était impressionnant, c'est-à-dire on pouvait sortir le matin de la maison, ou de la cité, à l'époque j'habitais la cité U, et du matin au soir, on pouvait assister à plein de tribunes et intervenir, etc., etc. Sans compter que nous-mêmes, en tant que groupe, on organisait aussi des groupes, on avait créé des coordinations des luttes, donc il y avait une jonction entre la lutte des journalistes, la lutte des étudiants, la lutte des ouvriers, des travailleurs de certaines grosses entreprises, comme l'entreprise de sidérurgie, l'entreprise de construction automobile, des choses comme ça. Et il y a eu quand même une très forte, c'est ce que j'appelle moi, une période de foisonnement, d'énorme concentration et mobilisation de la société algérienne. Sauf que dans la société algérienne, il y a beaucoup de courants, et que les islamistes aussi se sont mobilisés, et que les islamistes se sont mobilisés fortement parce qu'ils étaient soutenus par l'État algérien.
Est-ce qu'ils n'ont pas été soutenus, ça c'est une question peut-être en parallèle, par l'arabisation du pays?
L'arabisation est secondaire par rapport à la...
Je pensais qu'il y avait un lien entre arabisation et islam.
Mais aussi, il y a un lien, mais c'est un lien à la limite presque...
Pour les recourants, ils vont mieux connaître
le... Oui, mais tout le monde connaît l'arabe en Algérie. Tout le monde. Je veux dire, on n'a pas besoin d'arabiser pour connaître le Coran. Je veux dire, avant même l'indépendance de l'Algérie, alors que toute l'Algérie était française, les hommes et les femmes parlaient et lisaient l'arabe. En tout cas, ceux qui étaient instruits, il y avait des madrasas, des écoles coraniques où on apprenait l'arabe. Donc cette question ne se pose pas fondamentalement.
Donc ça n'a pas à voir avec ça.
Ça n'a pas à voir avec ça. Ça a à voir surtout avec une islamisation de la société, et ce qui est un courant qui existe réellement dans la société algérienne. Et bien sûr, qui dit islamisation dit effectivement abandonner toutes les langues, les autres langues, c'est-à-dire le français, y compris le berbère.
Voilà. Qui sont quand même des langues...
Des langues algériennes.
Algériennes et parlées, quoi.
Exactement, pratiquées.
Pratiquées, voilà, c'est ça. Et donc, là, tu dis, en fait, que suite après, ben oui, 88, après 88, sont arrivées les années terribles, de 90 à 2000, c'est
absolument,
ça,
de 92 à 2000.
12 à 2000, ouais.
Et en 92, pendant les deux années de 90 à 92, notre mobilisation, c'était effectivement, elle était double. On luttait contre les islamistes qui essayaient de nous imposer un certain mode de fonctionnement, c'est-à-dire une façon de s'habiller, une façon de marcher dans la rue, une façon
de ne pas fumer,
de réfléchir, de ne pas boire, etc., etc. Et l'État algérien aussi, qui était qui continuait à être répressif, même s'ils avaient, à cette époque-là, permis à ce qu'il y ait... Enfin, il y a eu, en fait, la réponse de l'État algérien à octobre 88, ça a été de dire, ok, vous voulez la liberté d'association, on autorise le multipartisme et la création d'associations de façon totalement libre. C'est-à-dire, il suffit de déclarer que tu crées une association et tu l'as. Tu n'as pas besoin d'attendre l'agrément, etc. D'après les chiffres de l'époque, il y a eu en un an et demi, 150 000 associations à travers le territoire algérien. C'est là qu'on voit la force et l'envie
des gens eux-mêmes
de se mobiliser. Ouais.
Voilà. Et ça a dérivé, c'est les islamistes qui... avec plus de moyens.
Oui, exactement. Il y avait plus de moyens et puis ils avaient aussi plus de
soutien aussi.
Et plus de soutien et plus de tribunes. Ils ont 5 prières par jour. Ils ont toutes les mosquées. Ils ont le pèlerinage. Ils ont voilà. Et puis ils sont dans toutes les couches de la société. C'est-à-dire, ils ne sont pas seulement dans la couche des gens instruits, ils sont aussi dans les couches populaires, ils sont, voilà. Donc du coup, ils ont eu très très rapidement une influence assez forte.
Et ces années terribles qui ont fait beaucoup de morts et qui t'ont aussi touché personnellement, c'est là aussi que tu vas avoir une autre façon de voir un peu la société algérienne par rapport à ce que tu appelles une guerre civile.
Oui, mais moi je considère que ce qui s'est passé dans les années 90 est une guerre civile, parce qu'on voyait quotidiennement les Algériens s'entretuer, je veux dire, avec des islamistes qui se sont organisés pour construire au départ une guérilla urbaine, ensuite qui est devenue, ils sont remontés au maquis pour encore construire plus leur riposte. Ils ont commencé à attaquer les policiers et l'armée. Il y a eu donc les premières personnes qui ont été touchées, qui ont été assassinées, ça a été les flics et l'armée. Ensuite,
les
ils ont commencé.
Les
après, ça s'est étendu à tout ce qui est enseignants, intellectuels, militants, syndicalistes, les gens qui étaient.
Théâtre,
les gens qui étaient au fait, qui avaient émergé. immergée pendant octobre 88. Parce qu'il faut dire une chose, il faut comprendre une chose en Algérie, ça, très peu de gens le disent, mais c'est la réalité. C'est-à-dire, avant octobre 88, il y avait quand même, les gens étaient dans la clandestinité, elles n'apparaissaient pas. Parce qu'il y avait aussi la menace à l'époque que si jamais on est dans l'opposition, on est considéré comme opposant et donc passible de prison.
Et l'opposition, ça voulait dire, je ne suis pas au FLN, il fallait être...
Absolument, voilà. Ça veut dire que tu n'es pas au FLN, ça veut dire que tu as une autre opinion de la politique, une autre opinion.
Il y avait un parti d'État, un syndicat d'État.
Toutes les organisations de masse à la soviétique étaient attachées à l'État.
Et on n'avait pas le droit de faire autre chose.
Voilà, absolument, pour faire autre chose. Donc les militants faisaient autre chose, mais par un petit peu de manière, un peu d'entrisme. C'est-à-dire, par exemple, il y avait beaucoup d'intellectuels qui étaient directeurs de structures culturelles, etc. Ben, d'ailleurs, c'est les premiers qui ont été assassinés. Hein. Tout le monde savait qu'ils étaient de gauche, voire d'extrême gauche, mais ils maintenaient leur place à l'intérieur de ces institutions en attendant le changement. Ils instillaient dans la société des idées de gauche, des idées progressistes, etc. etc.
Et donc les islamistes ont visé tous ceux qui se sont montrés, en fait, qui ont fait des choses.
Oui, par exemple, oui, entre autres, les islamistes et l'État aussi. Hein. C'est-à-dire que les deux ont quand même beaucoup contribué dans ce chaos islamiste, il y a eu énormément de gens qui ont profité de ce chaos pour assassiner ceux qui dérangent.
Et justement, comment tu vois le rôle de l'État, de l'armée et des islamistes ?
Moi, le rôle de l'État et de l'armée, c'est qu'au lieu pour moi, à cette époque-là, au lieu de dire, voilà, il y a le fils a gagné les élections législatives à 30%, au lieu de dire, voilà, on va commencer un dialogue pour essayer de voir quel type de société on construit ensemble, etc. Non, ils ont réprimé parce qu'il y avait des intérêts financiers. L'État, avant tout, devait se maintenir seul au pouvoir. Le seul objectif de l'État, c'était de se maintenir en pouvoir. Ils s'en foutaient complètement qu'il y ait des gens qui étaient assassinés ou quoi.
C'est-à-dire et que le pouvoir, c'était pour avoir le pouvoir économique.
Pouvoir économique, pour gérer, voilà, absolument. Gérer le pays, pour rester vraiment à la tête du pouvoir et gérer, parce que c'était. Même si à l'époque de Chedli, c'était encore le prix du baril du pétrole était très bas, mais tout de suite après. Le prix du pétrole a augmenté et du coup ça a créé une sorte de il y avait des gens qui voulaient se mettre la main sur la manne pétrolière et sur l'argent du pays, et c'est ceux qui étaient au pouvoir. Aujourd'hui, les plus grosses entreprises de l'État sont des entreprises qui sont soit des anciens de l'armée, soit des enfants de l'armée.
Oui, ce qu'on dit des généraux,
c'est vraiment la domination des généraux.
Et donc, toi, de ces années noires, tu as été touchée et tu as... alors, partant de militante, tu écrivais avant aussi. Tu as eu envie de faire un film. C'est comme ça que tu t'es retrouvée dans une autre façon de...
Absolument. Bon, c'est vrai qu'après l'assassinat de ma sœur, c'était difficile de se reconstruire. D'abord, de continuer à vivre, déjà, tout simplement. Et donc l'idée, effectivement, ce n'était pas évident de continuer à militer. J'ai continué à prendre la parole publiquement pour continuer à témoigner, mais ça ne suffisait pas. C'est-à-dire, au bout d'un moment, le témoignage devient un petit peu obsolète, c'est-à-dire que ça devient un peu gênant de continuer à un truc sans avoir d'action réelle, parce que moi, j'ai toujours été dans l'action. C'est-à-dire que c'était pour moi un peu indécent de continuer à témoigner alors que je n'avais pas d'action directe. Et donc, je me suis dit, la meilleure manière aujourd'hui, moi, j'aurais jamais imaginé qu'un jour, j'allais quitter l'Algérie. Tu vois, c'est-à-dire, j'ai été un peu poussée à l'exil. Et c'est dans cet exil-là que j'ai réfléchi, en faisant bien sûr, en essayant de me soigner, en essayant de dépasser un petit peu la douleur directe, la douleur qui est dévastatrice, et au contraire d'en faire quelque chose. Et c'est dans ce processus-là que j'ai réfléchi à une façon de m'exprimer. Et donc j'ai appris à faire du cinéma à ce moment-là, en me disant, j'ai renforcé mon travail d'écriture. Parce que voilà, j'étais jeune, donc j'étais en plein apprentissage. Moi, j'ai quitté la France, j'avais 27 ans, donc j'étais encore en plein apprentissage. Et donc, j'ai en même temps consolidé mon écriture et en même temps appris un nouveau métier. Voilà, et j'ai appris ce métier-là pour m'exprimer sur ce qui se passe, pour témoigner d'une autre manière, d'une manière un peu plus vaste sur ce qui se passe en Algérie. Oui, mais en même temps que j'ai réalisé mon film quand même, donc j'ai commencé à réaliser mon film en 2002, j'ai monté les rencontres cinématographiques de Béjaïa, un espace de projection et de débat et de dialogue entre les gens, et j'ai monté aussi un atelier de formation pour les jeunes. Donc je ne me suis pas contentée de réaliser mon film, dans mon petit coin et de le diffuser. J'ai aussi...
donner à portée de main le cinéma.
Absolument, en fait. Et puis aussi de former une nouvelle génération de cinéastes.
De cinéastes, voilà. Ouais.
Donc je me suis dit, j'ai appris quelque chose, il faut que je le donne tout de suite parce qu'on est pressé par le temps. Parce que l'Algérie, c'est un jeune pays, le temps s'accélère, les choses... voilà, il ne fallait pas que j'attende jusqu'à l'âge de 70 ans pour commencer à transmettre, je me faisais aider, je ne faisais pas ça toute seule, parce que j'invitais des cinéastes confirmés à venir intervenir, à aider, à construire avec moi ça. Hein. Je veux dire, je n'ai pas fait ça toute seule, et j'ai mobilisé des gens pour ça. Voilà. Mais c'est vrai que j'étais la cheville ouvrière.
Et donc c'est possible dans cette Algérie-là quand même.
Tout est possible, mais ça coûte cher.
Coûte cher en matière d'investissement,
de sa vie, oui, de sa vie. Je veux dire, j'ai été beaucoup emmerdée, beaucoup.
Mais toi, ce que tu disais, c'est que tu veux témoigner pour les survivants, en fait.
Absolument.
Qui doivent continuer à lutter, quoi.
Voilà, c'est
et
donné.
Pas toujours ce rôle de victime, quoi.
Ah non, moi, je suis très très vite sortie du rôle de victime, très très vite.
Bien que tu étais quand même victime.
Voilà, mais je suis sortie de ça. Mais en même temps, le rôle de victime, moi, je réfléchis autrement. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de pourquoi je voulais sortir de cette vision que les autres avaient de nous, parce qu'ils nous enfermaient dans une place de victime. C'est comme si on était juste des victimes et que nous n'avions jamais lutté pour que ce pays soit autrement. Et qu'on ne nous voyait que sous le prisme de la victimisation. On ne nous voyait pas comme des citoyens.
C'est secondaire.
C'est comme des citoyens qui avaient d'abord lutté pour changer notre destin. Et ensuite, on a été victime parce que nous avons lutté pour changer notre destin. Donc cette confusion qui était véhiculée...
Oui, ça fait double victime, en
absolument,
fait.
Absolument. Cette vision qui était véhiculée par beaucoup d'intellectuels, y compris de gauche en France, et c'était assez énervant d'ailleurs.
C'est une double condamnation.
Exactement. Et ils ne se rendaient pas compte qu'ils faisaient de nous, encore une fois, entre guillemets,
des
petites bougnoulettes qui étaient attaquées par les sauvageons algériens. Donc c'était pour moi insupportable, cette vision était insupportable. Et je le disais aux journalistes. Et après, c'est vrai que moi j'ai refusé après de témoigner complètement et j'ai dit non, je me replie sur moi-même pour pouvoir écrire et travailler. Et c'est comme ça que j'ai rencontré une femme qui travaillait, je ne me rappelle plus son nom, qui travaillait sur France Culture et elle m'a dit j'ai appris que tu ne voulais pas intervenir maintenant dans les télés parce que, etc., parce que tu considères que... On va faire une émission sur France Culture sur la victimisation. Et cette émission a eu un énorme écho. Parce que j'ai décortiqué, j'ai expliqué pourquoi tout ce que je suis en train de te dire, mais en plus développé, sur la question de la victimisation et sur la question de notre enfermement et sur la question de... en fait, comme si, entre guillemets, j'exagère un petit peu, bien sûr, pour pouvoir caricaturer, comme si les Français, d'un seul coup... Ils tenaient entre les mains quelque chose en disant oui, les Algériens, dès que vous avez le pays entre les mains, vous en avez fait n'importe quoi.
Oui, ah oui, ça peut une revanche presque.
Et donc, c'est pour eux le fait de soutenir les femmes algériennes, démocrates en plus.
Voilà.
C'était pour eux, genre, oui, nous, on vous aurait aidé à être encore plus démocratique, alors qu'à l'époque, il y avait 3% de la population qui était lettrée. Donc, il faut arrêter le délire. Mm-hmm. Et donc, moi, j'ai expliqué à tous les gens qui m'invitaient que je ne marchais pas dans leur combine. Et que moi, je veux construire l'Algérie de l'intérieur, même si ça va nous prendre beaucoup de temps. Mm-hmm. Donc, c'était un choix politique et un choix aussi salvateur, parce que je ne pouvais pas être autrement. Je veux dire, je me serais trahi, j'aurais trahi le combat de ma sœur, j'aurais trahi le combat de ma famille, parce que nous étions tous militants, tous mes frères et sœurs étaient des gens très engagés. Et pour moi, il n'était pas question de trahir tous ces gens. Et donc, je suis restée vraiment la tête... Enfin, j'ai gardé la tête froide et j'ai dit, je prendrai le temps de me former et de prendre la parole à ma manière.
Ça t'a pris 10 ans presque pour faire
absolument.
Ce film. 10 ans à nouveau passé, on est en 2017. Mmh. Et qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu penses de cette Algérie aujourd'hui?
Ben écoute, l'Algérie...
Tu as parlé de résistance aujourd'hui.
Oui, absolument.
Elles affleurent pas, en tout cas, on est désinformés totalement.
Je sais, mais parce qu'on parle que des morts. C'est-à-dire, ce qui intéresse la France, ce qui intéresse les médias occidentaux, c'est que si par exemple il y a des attentats graves ou des femmes sont assassinées massivement ou quoi que ce soit, là, je me rappelle en 2010, je vais vous raconter cette anecdote pour que tu comprennes un peu de quoi il s'agit. En 2010, il y a eu un article de journal en Algérie qui disait qu'il y avait des femmes de Hassim Souad qui étaient de nouveau attaquées et assassinées, et il y avait même un pogrom de femmes dans la ville de Hassim Souad. Moi, je, donc j'étais à Alger, j'étais en plein Hassim Sousse, c'est dans le sud algérien, c'est les champs pétroliers, c'est les villes pétrolières. Donc j'arrive, et puis d'un seul coup, les mouvements militants à Paris organisent une manifestation, à Alger, les femmes organisent une manifestation, c'était incroyable. Et j'ai dit, est-ce que vous avez les informations exactes? Est-ce que vous avez appelé les gens pour faire des enquêtes sur ce qui s'est passé et comprendre ce qui s'est passé? Donc personne ne fait l'enquête, personne n'essaie de comprendre. Ce que je décide, alors je décide d'aller à Hassim Sousse, de prendre l'avion avec mes propres moyens pour aller voir. Et donc une copine à moi qui est journaliste, elle me dit, est-ce que moi aussi j'ai la même démarche que toi? J'aimerais bien qu'on y aille ensemble, qu'on s'accompagne là-dessus. Elle, c'est une grande journaliste, elle s'appelle Razia Moufouk, elle est assez connue dans le milieu journalistique en France et en Algérie. On y va. Et on découvre qu'il n'y a ni pogrom ni rien du tout, et que ça a été une campagne qui a été menée de toutes pièces, et que c'était totalement faux, mais que, par ailleurs, sans qu'il y ait cette chose un peu comme ça, spectaculaire, genre un pogrom à Hassim Saoud, quotidiennement, depuis des années et des années et des années, les femmes sont raquettées, violées, etc. Mais, je veux dire, c'était pas spectaculaire. Mais en même temps, cette ville souffrait profondément de cette discrimination vers les femmes. Donc, après, j'ai appelé les copains à Paris. Je leur ai dit, écoutez, mais c'est pas du tout ce que vous croyez. Il n'y a pas eu 200 femmes qui ont été assassinées avant-hier. Je suis à Hassim Saoud, je vous raconte ce qu'il y a. Donc, votre manifestation... Elle est quand même obsolète, et en plus de ça, il faut quand même essayer d'expliquer ce qui se passe dans notre pays. Ce n'est pas comme ça qu'on soutient les luttes des femmes. C'est pas de cette façon qu'on les soutient. Et du coup, effectivement, aujourd'hui, moi, ma démarche, c'est ça, c'est de dire, mais arrêtons avec le sensationnel. C'est-à-dire, on s'intéresse plus à l'Algérie parce que les gens ne se font pas massacrer. Mais par contre, on ne va pas s'intéresser au mouvement des chômeurs, on ne va pas s'intéresser à des choses très profondes comme les femmes les mères des disparus qui chaque week-end manifestent dans la rue depuis des années, depuis 15 ans, pour que leurs enfants soient retrouvés, etc. C'est exactement de la même manière que les femmes de la place de Mai.
Oui, c'est ça. Parce qu'on ne sait pas s'ils ont disparu à cause des islamistes ou de l'armée.
Absolument. Qu'importe. Je veux dire, c'est des femmes qui demandent. On veut savoir. Les islamistes, c'est des êtres humains, après tout. Je veux dire, c'est nos voisins, c'est nos amis. Voilà, qui ont pris une décision d'avoir une vision politique différente. Mais moi, je ne diabolise pas l'islamisme. Pour moi, c'est mes adversaires politiques. Je veux dire, je ne suis pas dans une démarche de dire, voilà, ceux-là, il faut les massacrer. Moi, je suis contre le massacre des islamistes. Je veux dire, si je suis contre le massacre des gens qui ont les mêmes idées que moi, je suis contre...
Ça fait 25 ans, soi-disant, les massacres, voilà. Et on voit le résultat. Hein,
La société s'est totalement islamisée en Algérie, donc c'est pas possible, donc personne ne les massacre.
Et ça
c'est
te, juste de la poudre ça, aux ça yeux. Te fait pas perdre le moral, quoi, cette islamisation, parce que même en France ou partout dans d'autres pays, on sent cette montée de la religion.
C'est une forme différente, c'est de la réaction. C'est-à-dire les idées en poupe. En fait, aujourd'hui, l'islam et l'islamisme et la religion cristallisent la colère des peuples qui sont anticapitalistes. Et voilà, donc c'est pour ça. La réalité, elle est là, elle n'est pas ailleurs.
C'est une colère qui est concentrée.
Absolument.
C'est un prétexte.
C'est un prétexte. Ça aurait pu être, à l'époque, les gens suivaient Che Guevara sans le connaître. Aujourd'hui, ils suivent les groupes islamistes parce que c'est ceux, aujourd'hui, qui sont un petit peu, même si ce n'est pas vrai du tout. Hein. Je ne dis pas que les islamistes sont anticapitalistes, parce que c'est des capitalistes à fond. Hein, je veux dire. Mais ils cristallisent une certaine colère contre la discrimination, contre l'exclusion, oui. Contre
l'existence
les blancs contre le reste du monde, c'est-à-dire que la domination du blanc. Et donc ça, c'est quand même, voilà, c'est la raison fondamentale pour laquelle, en fait, pour moi, ce qui se passe par rapport à l'islamisme, c'est le processus de décolonisation qui se poursuit, mais de manière violente.
Et simpliste.
Simpliste parce que de toute façon, tous ces trucs extrémistes sont très simplistes. Parce que la majorité des gens, dès qu'on commence à leur parler de complexité, ça ne les intéresse pas. Si tu veux enrôler un jeune...
Complexité ou en tout cas lutte de classe.
Lutte de classe, absolument.
Un autre niveau.
Et ben, donc, si tu expliques très longtemps à un jeune pourquoi il est oppressé, si tu lui dis, voilà, je vais te faire lire Frantz Fanon pour que tu comprennes ce qui t'arrive, etc., etc., il va dire non. Il va dire, moi, je veux tout de suite prendre les armes et lutter, etc. Les islamistes, ils leur ont donné une équation. Et cette équation, elle est facile à gober, quoi. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui, profondément.
Et toi, tu es une femme debout, toujours... Et tu vis où
Dans le désert algérien.
Ah oui, et donc tu milites toujours sur place et
Je milite pas sur place, mais je milite avec des groupes de femmes qui existent et des associations que je soutiens. Et je suis plus organisée, je suis un peu... contre le fait que je ne supporte plus le système organisationnel qui existe. Mm-hmm. Par contre, j'interviens et j'aide, et j'aide beaucoup en formation. Je donne beaucoup de conseils.
Et à Béjaïa, le festival, il se poursuit.
Il se poursuit, mais je ne suis plus d'accord. C'est-à-dire, dès qu'il a commencé à porter allégeance au pouvoir et à l'Institut français, je ne suis pas d'accord. D'accord. Et donc, j'ai quitté depuis longtemps pour pouvoir vraiment me consacrer à la formation et en même temps aussi à l'écriture, parce que ça demande beaucoup de temps.
On peut dire que tu es une femme rebelle.
Je crois que je suis en rupture plus que femme rebelle. Je crois que toutes les femmes sont rebelles. Ouais. Ouais. Mais je suis en rupture avec ces systèmes et je l'assume totalement. Je sais que ça m'isole, mais en même temps, je ne suis pas si isolée que ça parce que je suis beaucoup sollicitée. Mm-hmm. Parce que les gens savent que j'ai une démarche éthique. Mm-hmm. Donc je ne cherche pas à avoir un poste comme députée ou comme ceci ou comme cela. Mm-hmm. Et que j'ai dépassé un certain nombre de choses qui sont de l'ordre de. Moi, je ne veux pas être médiatisée. Je ne cherche pas à être. Voilà, tout ce star system, tout ce côté un peu comme ça, très superficiel, ne m'intéresse pas. Et je préfère faire du travail invisible avec les gens, en profondeur. Donc je passe beaucoup de temps à former les gens, à discuter avec les gens, voilà. Sans pour cela les pousser vers une organisation quelconque ou quelque chose. Je veux pas, je prêche pas pour une chapelle, mais je prêche plutôt pour de la réflexion. Voilà.
Je te remercie beaucoup, ça sera le mot de la fin. Merci bien.
Voilà.
Yeah.